Bienvenue dans Expat Heroes, le podcast qui vous donne de l'énergie pour relever les défis de l'expatriation. Je suis Christina Philippa Rojo. Expatriée pour la troisième fois, en ce moment en Angleterre, j'ai décidé de montrer la réalité de l'expatriation loin des clichés au travers d'interviews de francophones expatriés et d'experts de la mobilité internationale. Vous trouverez dans ce podcast la dose d'inspiration nécessaire pour partir en expat, seul ou en famille, et surtout des conseils avisés pour bien s'adapter et se réaliser à l'étranger. Bonne écoute! Expat Heroes. S'adapter, se réaliser à l'étranger. Vous écoutez l'épisode 88 du podcast Expat Heroes. Mon enfant a 11 ans, il a vécu dans plusieurs pays. Espagne, France, Suède, Angleterre. Et parfois, en le regardant grandir, je me dis « Waouh ! J'espère que tous ces changements, tous ces déménagements vont pas avoir d'impact négatif sur lui à l'âge adulte. » D'où le sujet de cet épisode. Quel impact l'expatriation aura sur nos enfants de troisième culture à l'âge adulte ? Pour répondre à cette question, j'accueille Cécile Gilbert. Elle est coach d'expatriés, spécialiste des enfants expatriés et elle les accompagne, ses enfants et les adultes qu'ils deviennent, pour relever les défis de cette enfance atypique et transformer leur fragilité en atout. Oui, vous avez bien entendu le mot « fragilité ». Parce qu'on a, c'est vrai, tendance à idéaliser l'expatriation. Hein. On sait ce que ça va apporter à nos enfants. Le multilinguisme, la capacité d'adaptation, l'ouverture culturelle, oui, c'est vrai, mais il y a de nombreux challenges à relever. Alors, quel impact l'expatriation aura sur nos enfants de troisième culture à l'âge adulte ? Réponse tout de suite avec Cécile Gilbert dans Expat Heroes. Bonjour Cécile.
Bonjour Christina.
Cécile, tu as été expatriée pendant plus de 25 ans. Tu es spécialiste des enfants TCK, enfants de la troisième culture, et des adultes qu'ils deviennent, et tu les aides à bien vivre ce passage à l'âge adulte. Alors d'abord, peux-tu nous rappeler ce qu'est un enfant TCK, Third Culture Kid ? Qu'est-ce que c'est ?
Un TCK, Third Culture Kid, ou enfant de la troisième culture, comme moi je dis plutôt, est un enfant qui a vécu la majeure partie de son enfance et de son adolescence dans plusieurs pays, autres que son pays d'origine, et qui a donc été exposé à plusieurs cultures. Donc deux facteurs forgent cette troisième culture. L'exposition récurrente à de nombreuses cultures et ce que l'on oublie souvent de mentionner, un environnement dynamique. Par environnement dynamique, j'entends un environnement qui est sans cesse en mouvement parce que les ETC non seulement déménagent eux-mêmes, mais vivent aussi dans un environnement qui se modifie sans cesse. On a les amis qui arrivent, qui partent, les voisins, les camarades de classe, les profs aussi qui arrivent, qui partent. Il y a un changement d'école et souvent un changement de système scolaire. Donc, pour moi, ils ont une vie un peu comme une pièce de théâtre où non seulement les acteurs changeraient sans cesse, mais les décors se modifieraient aussi plus souvent que de coutume. Donc, pour être TCK, il faut avoir été exposé à ces deux situations. Un enfant qui part s'installer avec ses parents définitivement à l'étranger ne sera pas un enfant de la troisième culture. Il aura d'autres caractéristiques, d'autres défis à relever, mais il se développera selon un autre modèle. J'ajouterai quelque chose à comprendre quand on parle de troisième culture, parce qu'il y a souvent confusion dans le terme. La première culture est la culture d'origine ou la culture des parents, biculture d'ailleurs, quand c'est un couple binational.
Oui.
La deuxième culture, ce sont les cultures des pays d'accueil et pas un seul des pays d'accueil.
D'accord.
Et la troisième culture, donc celle dont on parle ici, elle rassemble, elle synthétise, elle intègre la culture d'origine et les cultures des pays d'accueil. Donc voilà, c'est cette culture mosaïque qui est propre à chaque enfant de la troisième culture. Ils ont donc une identité culturelle particulière, mais ils la partagent avec les autres ETC, enfants de la troisième culture, même s'ils ont des origines ou des parcours différents, et ils appartiennent à la même communauté culturelle.
D'accord, donc une troisième culture, une culture en fait mosaïque, qui permet à ces enfants de développer de nombreuses aptitudes hein, grâce à l'expatriation. Quelles sont-elles ces aptitudes ?
Cette enfance atypique, ça leur a effectivement permis de développer un certain nombre de compétences. Je passe rapidement sur toutes les compétences qu'on a facilement à l'esprit, le multilinguisme, la capacité d'adaptation, etc. Oui. Je voudrais plutôt souligner des aptitudes qui sont moins évidentes ou moins connues. Mm-hmm. Par exemple, leur capacité d'observation et leur flexibilité intellectuelle. Ces adultes de la même culture, ils ont développé des capacités d'observation vraiment du commun pendant leur enfance. Ils ont appris que dans un contexte culturel différent, c'est important d'être un observateur avisé avant d'être un acteur.
D'accord.
Essayer de comprendre ce qui se passe autour d'eux et découvrir ce qui se cache derrière ce qu'on voit, derrière les apparences, ça devient vraiment une seconde nature. Et ils savent qu'une personne sera acceptée ou rejetée selon les règles qu'elle respecte ou ne respecte pas d'ailleurs. Ils savent intuitivement que certains comportements qui peuvent paraître anodins ou qui sont appréciés dans un environnement donné pourraient être considérés comme offensants ou déplacés dans une autre culture. Ils ont donc de vraies capacités d'écoute, ils savent vraiment voir au-delà des apparences. Ils discernent vraiment la communication non verbale, au-delà de la communication verbale. Donc, en fait, observer pour mieux décoder, ça devient un talent naturel. Donc, ça amène naturellement à la deuxième aptitude, qui est une plus grande flexibilité intellectuelle et une capacité à appréhender les situations de façon globale.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Au lieu d'avoir un point de vue personnel tranché, ils n'hésitent pas à remettre en question leur propre forme de pensée pour se mettre dans la peau des personnes qu'ils ont en face d'eux. C'est une faculté qui leur permet de déceler des motivations profondes des autres, de mieux les comprendre, etc. Pendant leur enfance, ils ont appris comment les gens abordent la vie avec des perspectives culturelles différentes. Très tôt, ils ont été conscients qu'on peut voir la même réalité avec des points de vue complètement divergents. Et qu'on peut faire les choses de plein de façons différentes en ayant des résultats tout à fait acceptables. Voilà. Donc, ils n'ont pas de stéréotypes. Donc, ils sont quand même intellectuellement très flexibles. Et ça, d'ailleurs, c'est très valorisé dans le domaine professionnel, hein, à l'âge adulte. Ensuite, ils ont eux-mêmes la capacité à penser en dehors du cadre, out of the box. Ils savent vraiment prendre du recul par rapport aux événements, ou à l'analyser selon plusieurs angles de vue. Et enfin, ils ont une plus grande capacité à résoudre les problèmes, et notamment les problèmes qui ne sont pas forcément les leurs.
Avec cette aptitude de se mettre à la place des autres, ça leur permet d'être plus à l'aise pour résoudre le problème des autres, peut-être.
C'est ça. C'est ça. En fait, c'est cette façon qu'ils ont de pouvoir voir les choses d'un peu plus haut, avec un peu plus de hauteur, ça leur permet effectivement de mieux comprendre les autres, donc peut-être de mieux se mettre à leur place et de résoudre les problèmes.
Pourtant, en tant que parent, on sent qu'il y aura des challenges pour eux à l'âge adulte. Je me souviens d'une amie en Suède inquiète que sa fille adolescente ne s'investisse pas en amitié parce que sa jeune fille était consciente qu'elle allait repartir un jour. Donc, elle se disait, mais à quoi bon m'investir avec tel ou tel ami ? Est-ce qu'on vient te consulter parfois pour ce type de problème ?
Oui, souvent. Et d'ailleurs, surtout les adolescents et les jeunes adultes, parce que je vois aussi des adultes qui sont plus âgés et qui ont plutôt mieux réglé ce problème-là. Mais pour les adolescents, pour les jeunes adultes entre 20 et 30 ans, c'est un sujet qui revient fréquemment. Alors, qu'est-ce qui se passe ? En fait, ils ont développé des compétences relationnelles atypiques pendant leur enfance. Ils ont construit des amitiés éphémères, mais très fortes. Tous les parents expatriés voient que leurs enfants ont de vraies amitiés. Ouais. À l'âge adulte, ils ont souvent des amis qui sont plutôt répartis sur la planète, ce qui en soi n'est pas si compliqué à vivre, surtout de nos jours avec les nouvelles technologies et les facilités de déplacement, hors Covid bien sûr. Mais aussi parce que ces jeunes adultes sont d'une génération où l'on échange beaucoup de façon virtuelle, même avec des amis qui habitent tout près. Donc finalement, la distance, ce n'est pas vraiment un obstacle relationnel. En revanche, la notion d'éphémère est vraiment restée ancrée. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment le sens du temps qui passe et que tout peut changer rapidement, pas du jour au lendemain, mais pratiquement. Donc, ils cherchent donc des relations fortes et intimes et profondes en peu de temps. Ce à quoi les gens qui n'ont pas vécu cette expérience ne sont pas forcément préparés.
Bien sûr.
Ce sont des gens qui sentent et qui peuvent rapidement faire confiance ou entretenir une véritable relation d'amitié avec quelqu'un. En fait, ils se disent un peu, mais pourquoi traîner en longueur dans la relation alors qu'on est fait pour s'entendre ? Ils le sentent, ils le ressentent. Et les gens qui ont vécu une enfance plus sédentaire, qui n'ont pas cette expérience, ne sont pas forcément préparés à ça. Et ça génère souvent de l'incompréhension et des frustrations des deux côtés. Donc ça, c'est quelque chose qu'on démêle très souvent aussi quand on est en séance.
Oui, effectivement, peut-être qu'ils se disent, étant enfant, ils savent qu'il n'y a pas de temps à perdre parce qu'ils ont le risque de repartir bientôt. Donc peut-être qu'il y a ça.
Oui, ou que l'autre va repartir.
Que l'autre va repartir, oui, tout à fait.
Donc ils recherchent vraiment des relations profondes et intimes, mais rapides, trop rapidement pour la majorité de leurs interlocuteurs, en fait.
On culpabilise aussi parfois en tant que parents en se disant waouh, qu'est-ce qu'on leur fait subir avec tous ces changements parce qu'ils doivent s'adapter en permanence. Est-ce que par voie de conséquence, les enfants TCK devenus adultes sont plutôt enclins à rester dans le même pays ou alors ils continuent à avoir la bougeotte et ils deviennent eux-mêmes expats en étant adultes?
Alors ça, c'est la question des parents expatriés. Est-ce que mon enfant va...
on se demande.
Etc. C'est la question. Oh, il n'y a pas vraiment une réponse définitive. Parce qu'un adulte de la troisième culture, c'est avant tout un adulte. Donc, sa vie est faite de rencontres, il fait son chemin, il fait des choix en fonction de son parcours, de sa famille, etc. Comme tout le monde. Et la plupart, en effet, auront une vie expatriée ou un conjoint d'une autre culture. Une autre partie, au contraire, préférera la stabilité à tout prix. Bon, il n'y a pas de réponse vraiment définitive. Une plus grande partie cherchera la mobilité. Une autre partie cherchera la stabilité. Mais à ce moment-là, ça serait vraiment une stabilité très ancrée, peut-être même un peu excessive.
D'accord.
Mais ce que je voudrais ajouter, c'est qu'en fait, les enfants de la troisième culture, qui sont devenus des adultes, ont développé des compétences sociales, des compétences de travail, des compétences de vie, tout simplement, en environnement instable. Et le point intéressant est là. Ils sont moins à l'aise dans la routine et dans un environnement statique. Alors moi, je compare toujours un peu ça comme les marins qui sont très à l'aise sur leur bateau parce qu'ils ont fait des semaines et des semaines de mer et puis qui tanguent, qui n'arrivent plus à marcher droit quand ils reviennent sur Terre.
Ouais.
Donc, ces adultes de la troisième culture sont très à l'aise dans le changement. Mais le changement n'est pas forcément géographique. Un changement, c'est aussi changer de travail, c'est aussi changer d'amis, c'est aussi changer de ville, etc. Et ces adultes de la troisième culture ont souvent besoin de cet environnement à géométrie variable pour leur équilibre. On appelle ça l'instinct de migration, qui est à nouveau pas forcément une migration géographique, mais ça peut engendrer de l'instabilité chronique. Et j'ajouterais que cette aptitude au changement, on va dire ce besoin de changement, c'est également pour eux un outil dans la gestion du conflit, dans la gestion de crise. Lorsqu'une situation me déplaît, je change. Ils n'hésitent pas à prendre ce que d'autres appelleraient des risques inconsidérés, alors que pour eux, c'est juste une méthode pour faire face à certaines situations.
D'accord.
Je change de travail, je change d'entreprise, je change de poste, ou je change de conjoint. Est-ce qu'ils auront la bougeotte? Oui, ils auront la bougeotte, mais pas forcément une bougeotte géographique. Même ceux qui veulent se déplacer géographiquement, il y en a plein qui le font, ils ont quand même l'expérience de savoir tout ce que ça représente. Et ils sont quand même toujours tiraillés entre l'envie de bouger et savoir tout ce que ça représente en termes d'investissement de recommencer à zéro.
Oui, parce qu'ils l'ont vécu, ils savent.
Parce qu'ils l'ont vécu, exactement.
Donc, on le comprend, hein, les adultes qui ont vécu leur enfance exposée à plusieurs cultures simultanément, comme tu l'expliquais, et à une mobilité géographique répétée, se retrouvent face quand même à des difficultés. Est-ce qu'il y a d'autres challenges à relever dont on n'aurait pas parlé?
Oui, il y a d'autres challenges, parce que sinon, ça serait trop simple.
Tu peux en citer quelques-uns vraiment importants?
Ce pourquoi on vient la plupart du temps me voir, mais il en découle beaucoup de choses derrière, mais c'est qu'ils ont besoin de s'affranchir de ce qu'eux ressentent comme un manque de racines, mais qui en fait est une situation de racines multiples. Donc, ils ont l'impression de manquer de racines, alors qu'en fait, ils en ont trop. La société nous demande toujours de venir d'un endroit.
Oui, de choisir.
Alors, en fait, on peut très bien venir de plusieurs endroits. Et c'est vrai qu'on dit toujours que la pire question pour un ETC ou un ATC, les adultes de la troisième culture, c'est « d'où es-tu ?» Et c'est vrai, on ne peut pas le nier. Mais dès qu'ils reconnaissent et qu'ils acceptent qu'ils ne sont pas sans racines, mais plutôt multiradiculaires, alors là, beaucoup d'obstacles se lèvent. Il faut qu'ils arrivent à le reconnaître, à l'accepter.
Oui, c'est ça.
Un autre défi également est celui de dépasser les peurs du changement, notamment pour ceux qui ont vécu des transitions qui se sont mal passées pendant la jeunesse, et surtout, pardon, pour ceux qui ont vécu ou ont souffert de ce qu'on appelle les pertes cachées. Parce qu'une enfance expatriée, c'est une succession de rencontres et une succession de séparations. Et dans toute séparation, il y a des pertes que l'on identifie plus ou moins bien sur le moment, mais qui peuvent laisser des traces à l'âge adulte. Donc, on a l'impression que quand un enfant ou un adolescent déménage, il perd juste ses amis, sa maison, son école. Or, il y a des pertes qui sont beaucoup moins facilement identifiables, mais tout aussi importantes. La perte de statut, par exemple. Le statut d'étranger, c'est une position très particulière qu'on n'a plus, par exemple, lors du retour dans son pays d'origine. La perte de possession, parce qu'à chaque déménagement, ça implique de laisser certaines choses. La perte de relations, bien sûr. La perte d'une histoire. On perd un morceau de sa vie quand on quitte un pays, surtout dans un pays où on sait qu'on ne reviendra pas avant longtemps. La perte d'expérience manquée. Par exemple, la dernière année, quand on déménage la dernière année avant le bac, on ne va pas passer le bac dans l'école où on l'a préparé. La compétition qu'on a préparée pendant un an et à laquelle finalement on ne participera pas, etc. Ça, ce sont les pertes d'expérience manquée. Toutes ces pertes ne sont pas forcément bien identifiées sur le moment. Et si elles sont identifiées et formulées, on en fait le deuil. Si ce n'est pas le cas, les chagrins qui sont liés peuvent ressurgir des années après. Et je pense à une femme que j'ai suivie l'an dernier qui vivait extrêmement mal son expatriation. Elle avait été expatriée elle-même quand elle était plus jeune. Et en fait, sa fille changeait d'école en quatrième, donc pas une année non plus particulièrement compliquée. Mm-hmm. Mais ça a fait ressurgir en elle qui avait également changé de pays en quatrième et où ça s'était extrêmement mal passé, ça a fait ressurgir en elle des angoisses, un chagrin, etc., alors que sa fille le vivait plutôt bien.
Qu'un vrai traumatisme, en fait.
Voilà. Donc, dans la peur du changement, il y a aussi toutes ces pertes qu'on identifie très mal sur l'instant, auxquelles on ne pense plus par la suite, mais qui peuvent ressurgir. Mmh. Après, un autre challenge, c'est toute la résolution des conflits identitaires. Ça, c'est quelque chose qui est très, très récurrent, comme le manque de racines. Il faut d'abord comprendre ce que c'est. L'identité, c'est la question « qui suis-je ?». Donc, cette question, elle a deux socles. Elle a le socle du sentiment d'unité et du sentiment d'appartenance. Le sentiment d'unité, c'est la réconciliation de toutes nos valeurs, tout ce qu'on a appris, dans un ensemble cohérent. Tout ce que nous savons, nous pensons, pourquoi nous le pensons, nous savons agir dans telle ou telle circonstance, etc. Et ça, c'est cohérent par rapport à notre système de pensée, à celui des gens qui nous entourent. Le deuxième socle de l'identité, c'est le sentiment d'appartenance. C'est-à-dire que ça implique de connaître son entourage et d'être reconnu par lui, sans avoir besoin tout le temps de réexpliquer qui on est, d'où on vient, quelles sont nos valeurs, nos principes, etc. On fait partie d'un groupe, comme la famille, comme un groupe d'amis, un groupe culturel, et ça, ça donne un sentiment de sécurité parce qu'on peut être spontané. Mmh. Or, ces deux piliers de l'identité sont vraiment malmenés lors des changements récurrents, des changements culturels récurrents. Mmh. Et ça fragilise beaucoup l'identité. D'abord parce que si l'expatriation, c'est vraiment riche en exposition culturelle, ça soulève le problème de la réconciliation de toutes ces valeurs. L'apport multiculturel, c'est bénéfique pour l'enfant expatrié, mais trop de valeurs, tout aussi valides les unes que les autres, c'est difficile de les rendre cohérentes entre elles, comment se positionner, etc.
Puis elles peuvent être contradictoires, ces valeurs aussi, dans certains pays.
Et souvent, elles peuvent être tout à fait contradictoires. Exemple de l'humour, par exemple. Oui. L'humour qu'on peut avoir dans un pays n'est pas du tout le même humour qu'on a dans un autre pays. Ma fille, qui n'a jamais vécu en France, et pourtant elle a des parents français, etc., énormément de mal avec l'humour noir, qui est typiquement français, par exemple. Donc, toutes ces valeurs contradictoires, un adulte de la troisième culture, il va devoir les rendre cohérentes entre elles. Par exemple, notre exemple, il est poli de se déchausser en Asie, ça serait complètement incongru, je pense, en Angleterre, où tu habites, en arrivant dans une maison où on ne connaît personne. Voilà, pourtant, les deux comportements sont corrects. Tout dépend de l'environnement. Donc, pour les ATC, il n'y a pas une seule façon de faire les choses, mais il y en a beaucoup. Et il faut réconcilier tout ça. Concernant le deuxième pilier de l'identité, qui est l'appartenance, donc appartenir à un groupe qui nous connaît, qui nous reconnaît, ça nous donne de l'assurance, de la confiance, sans avoir tout le temps besoin de se redéfinir. Et là, ce qu'il manque, c'est le temps. Surtout pour les enfants qui changent de pays pour tous les 2 ou 3 ans. Oui. Comment bâtir des relations solides sans long terme, comment s'inscrire dans un groupe en peu de temps et changer de groupe régulièrement. Donc, en fait, dans cette recherche de l'identité pour les enfants de la troisième culture, on travaille énormément sur ce sentiment d'unité et ce sentiment d'appartenance. Sentiment d'unité en réconciliant les valeurs, sentiment d'appartenance en travaillant beaucoup sur les compétences relationnelles. Et enfin, un dernier point, le dernier oui. que je dirais pour cette question, c'est accompagner dans la valorisation des compétences personnelles et professionnelles. Pour tous ceux qui sont en recherche de travail, pour les jeunes adultes qui commencent leur carrière, on travaille beaucoup aussi sur la valorisation de toute leur histoire, de tout leur acquis en compétences professionnelles. Comment on transforme tout ça en compétences professionnelles?
Parce qu'il y a un manque de confiance en eux, peut-être d'estime d'eux-mêmes. C'est pour ça que vous travaillez ça ou...
C'est très paradoxal. À la fois, ils ont trop confiance en eux.
D'accord.
Parce qu'ils se sentent doués de certains talents que les autres n'ont pas. Mm-hmm. Mais ils ne savent pas toujours comment les valoriser, comment les vraiment les mettre en valeur. Et à côté de ça, ils se sentent souvent en décalage. Oui. Pas fit dans leur environnement ou pas connaître les codes exacts de ce qui se fait, de ce qui ne se fait pas, etc., dans le pays où ils cherchent du travail, par exemple. Surtout quand c'est leur pays d'origine, à nouveau. Finalement, le pays qu'ils connaissent le moins bien, c'est leur pays d'origine.
Ouais, ouais, ouais. Merci beaucoup de nous avoir donné tous ces éléments. C'est intense, passionnant, mais extrêmement utile parce que j'arrive à ma dernière question. En tant que parents expatriés, comment on peut les aider justement à éviter qu'ils aient des traumatismes, à relever ces challenges correctement à l'âge adulte, qu'ils aient le moins de soucis possible, quoi.
Alors déjà, c'est pas forcément un fardeau d'être adulte de la troisième culture, c'est aussi un cadeau, hein. Mais c'est sûr que si c'est bien préparé pendant l'enfance, c'est plus souvent un cadeau qu'un fardeau. Moi, je recommanderais tout d'abord de bien les identifier comme enfants de la troisième culture, parce que maintenant, le concept est connu, c'était pas vrai il y a 15 ans. Maintenant, le concept est connu et reconnu, donc leur faire connaître qui ils sont, quels sont les principes de la troisième culture, nommer cette identité aussi culturelle et puis l'associer à leur parcours. Leur dire en quoi et pourquoi ils sont différents d'enfants sédentaires, le leur expliquer, désigner leurs forces et leurs faiblesses, leur apprendre à les connaître, à les apprivoiser, à vivre avec. Et pour beaucoup d'entre eux, dès qu'ils savent qu'il y a des raisons légitimes d'avoir les inquiétudes qu'ils ont, d'avoir les préoccupations qu'ils ont ou les angoisses qu'ils ont quand ils sont enfants, ça leur permet d'accepter toute cette histoire. Comme nous, comme tout le monde d'ailleurs, et pour tous les sujets, quand les choses sont nommées et identifiées, c'est quand même beaucoup plus facile d'y faire face. Et du coup, ils se sentent un peu moins extraterrestres, mais bien des personnes qui ont juste eu un parcours différent de la majorité des gens.
Alors, je rebondis sur ce point-là, parce que parfois, on veut les protéger et on se dit, OK, on sait qu'on va rester 2 ans dans ce pays, on ne va pas leur dire. Ou est-ce qu'il faut leur dire absolument? Toi, tu leur dirais absolument?
Alors moi, je dirais déjà que ça dépend de l'âge, ça dépend des enfants et ça dépend des parents. Quand ils sont tout petits, je ne sais pas si la notion de temps est vraiment si importante que ça. À partir de 8-10 ans, bien sûr, ça, ils commencent à avoir une notion de temps qui est plus normale. Et là, moi, je trouve que c'est important parce que ça fait partie de la notion de l'enfant expatrié, de l'identité et de l'expérience de l'enfant expatrié, contrairement à un enfant migrant, par exemple, oui. Un enfant migrant, dont on parlait tout à l'heure, s'installe dans un pays définitivement. La propriété de l'expatriation, c'est le changement, soit pour un retour, soit pour changer de pays. Donc oui, il vaut mieux le leur dire. Maintenant, il y a des parents qui ne sont pas du tout à l'aise avec cette notion-là, et je crois qu'il faut respecter ça aussi, et le dire, que les parents le disent au moment où ils sentent que c'est bon pour eux. Maintenant, le leur dire 3 semaines avant le départ, c'est peut-être un petit peu risqué.
D'accord. Je te laisse continuer. Pardon pour cette interruption.
On en était, sur les conseils pour préparer l'âge adulte. Donc leur enseigner les modèles de comportement de cette troisième culture à laquelle ils appartiennent déjà, mais ils vont encore plus appartenir en tant qu'adultes. Donc, leur expliquer les cycles répétés, toutes les transitions successives, les caractéristiques des comportements des enfants de la troisième culture, leur faire prendre conscience de leur questionnement sur l'identité, sur leurs racines, sur leurs soucis de loyauté envers ces valeurs multiples, etc. Ça, on peut le faire jeune, on peut le faire avec des dessins, on peut le faire avec des jeux, on peut le faire avec de la discussion, on n'est pas obligé de leur faire un PowerPoint non plus. Et les sensibiliser aussi au mode de relation qu'ils vont entretenir et les aider à comprendre pourquoi ils sont à la fois à l'aise avec tout le monde et difficilement intimes avec quelqu'un. En fonction de ce qu'on a dit aussi un petit peu précédemment, identifier leurs peurs et ne pas les minimiser. C'est ne pas leur dire, mais ne t'inquiète pas, dans ce nouveau pays où on va, tu vas apprendre telle langue, c'est très très facile, tu vas l'apprendre très vite. On ne le sait pas. Il y a des enfants qui apprennent comme ça et des enfants qui tardent pour les langues. Voilà, donc pas minimiser les peurs, mais beaucoup en parler. Et nommer toutes ces pertes dont on a parlé précédemment. Comment tu te sens, si on rentre dans le pays d'origine, comment tu te sens de ne plus être l'étranger? Qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi de quitter? Beaucoup travailler sur les pertes pour éviter justement que ça se transforme en chagrin non résolu, comme appellent Ruth Van Reken et David Pollock cette conséquence à l'âge adulte. Et puis aussi, les encourager en leur montrant comment ils ont surmonté les transitions précédentes. Ça, quand ils grandissent, leur faire assumer leur expérience de TC. Que les adultes, moi, que je rencontre, ont souvent une relation très paradoxale avec leur passé. Ils en sont fiers, très fiers, parce qu'il s'agit de leur histoire. C'est un peu extraordinaire, c'est un peu atypique. Et comme je disais tout à l'heure, ils en ont en même temps un peu honte, parce qu'il y a un déséquilibre culturel qui se note, il y a un décalage. Donc, les encourager pour assumer, cultiver leurs différences. Non, ils ne sont pas comme les enfants sédentaires qui ont toujours vécu dans le même pays ou dans la même ville. Oui, ils souhaitent leur ressembler et c'est normal, mais ils ne seront jamais exactement comme eux. Leur montrer aussi, et ça notamment pour les adolescents, qu'on peut être dissemblable et on peut pourtant s'intégrer dans un groupe. C'est-à-dire, on peut rejoindre un groupe sur ses intérêts majeurs et avoir aussi des intérêts différents, des centres d'intérêts différents. Voilà, bah après, les aider à développer tous leurs atouts, le multilinguisme, la tolérance, mais je pense que c'est ce que font la plupart des parents expatriés. Et enfin, les mettre en contact avec d'autres enfants expatriés, parce que finalement, c'est là où ils se sentent le plus... où ils ont les relations les plus simples à gérer,
ouais.
Où ça démystifie leur parcours. Ils ne sont pas les seuls enfants à avoir vécu dans plusieurs pays, sous l'influence de plusieurs cultures. Ça, c'est rassurant pour eux et ça leur permet de beaucoup mieux endosser leur histoire. Voilà. Et puis finalement, je dirais que c'est rassurant de connaître le concept de troisième culture à la fois pour les parents, pour les enfants et également pour les adultes d'aujourd'hui qui ont eu cette enfance expatriée. Finalement, ça apporte des réponses à des questions qui restent parfois sans réponse.
Ouais, il y a beaucoup d'adultes qui rentrent en France et qui se sentent mal. Ils n'arrivent pas à trouver des mots sur l'expérience qu'ils ont pu vivre.
Tout à fait. C'est énormément le cas des jeunes adultes qui ont vécu vraiment la majeure partie de leur enfance ou de leur adolescence à l'étranger et qui rentrent dans leur pays d'origine pour faire leurs études.
Non mais merci, un grand, grand merci. On y voit plus clair. Il va nous falloir digérer toute cette information, mais tu nous as donné énormément. Donc, merci beaucoup, Cécile, d'avoir accepté de participer au podcast pour nous parler donc de l'impact de l'expatriation sur nos enfants à l'âge adulte. Est-ce que, pour en savoir plus, est-ce que tu peux nous donner peut-être ton site internet ?
Mon site internet, c'est cécilegilbert.com.
D'accord.
Et mon livre, j'ai écrit plusieurs livres, mais celui qui traite de ce sujet s'appelle « Les enfants expatriés, enfants de la troisième culture ».
Je remettrai le lien vers ton site web et puis le lien vers ton livre sur les notes de l'épisode. À très bientôt, Cécile.
À bientôt, Christina. Merci.
L'épisode touche à sa fin. Merci pour votre écoute. Si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts ou tout simplement de le recommander à vos amis. En attendant le prochain épisode, continuez à développer vos super pouvoirs et osez jour après jour. À bientôt !